VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon. Aucun match prévu jusqu'à samedi, avant les deux premiers quarts de finale, Burkina, Tunisie et Sénégal, Cameroun. Hier, la grande finale du groupe D, Ghana-Égypte à Port-Gentil a tourné à l'avantage des pharaons égyptiens qui l'ont emporté 1-0. L'attaquant de l'AS Roma, Mohamed Salah, a été l'unique buteur de cette rencontre sur une pelouse en mauvais état. Le point sur la rencontre avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les pharaons d'Égypte entament le match du bon bout et concrétisent leur domination dès la 11e minute par Mohamed Salah sur un magistral coup franc à 20 mètres du but ghanéen. S'en suivra une série de ratés de part et d'autre, mais surtout la sortie sur blessure du capitaine des Black Stars du Ghana, Asamoah Gyan, touché à la cuisse droite. Son remplaçant, Jordan Ayew, l'un des fils d'Abedi Pelé, très en vue en seconde période avec Christian Atiou, va multiplier des assauts dans le camp égyptien sans parvenir à battre l'impérial El Hadary, 44 ans, doyen en âge de tous les joueurs de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est donc une équipe égyptienne plus solide collectivement, réaliste et plus expérimentée qui a remporté ce choc du groupe D face à des Ghanéens en difficulté.
Avec cette victoire, l'Égypte termine première du groupe et affrontera le Maroc en quart de finale. Le Ghana jouera contre la République démocratique du Congo dans l'autre quart de finale. Par ailleurs, à Oyem, le miracle n'a pas eu lieu pour les Aigles du Mali, tenus en échec par l'Ouganda un partout hier. Retrouvons pour le résumé de ce match l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Dans le match des éliminés du groupe D, c'est l'Ouganda qui a ouvert le score à la 70e minute par Farouku Miya d'un puissant tir sur une passe de Denis Iguma. Trois minutes plus tard, Yves Bissouma égalisait pour les Aigles sur un coup franc magistralement tiré. A noter que la pelouse détrempée après une grosse pluie n'a pas facilité la tâche aux joueurs. Pour le coach des Maliens Alain Giresse, la prestation des Aigles à cette canne a un goût d'inachevé.
On a quand même tout au long de cette canne des difficultés à marquer des buts et à concrétiser les possibilités qu'on a. Ça, c'est lourd comme difficulté, c'est un handicap qui, dans une compétition comme ça, après, pénalise.
Le coach Milutin Sredojevic, lui, n'a pas tari d'éloges au sujet des Grues Ougandaises.
We have done an amazing job after 39 years.
Nous avons abattu un travail extraordinaire. Après 39 ans, jouer contre deux anciens champions et perdre par un but et mener contre le Mali, nous pouvons maintenant nous mesurer aux meilleures équipes africaines.
Les Aigles comme les Grues ont atteint le terminus dans cette 31e Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Timothée Donangmaï, OIM, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Gambie, le nouveau président gambien Adama Barrow doit regagner son pays ce jeudi. Un retour très attendu depuis sa prestation de serment il y a une semaine à Dakar et le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh le 21 janvier. Et puis lors d'une crise à rebondissement de 6 semaines. Accueilli au Sénégal depuis le 15 janvier à la demande de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui craignait pour sa vie tant que Yahya Jammeh était en place, M. Barrow différait jusque-là son retour, invoquant des inquiétudes persistantes pour sa sécurité. L'émissaire spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Imd Chambas, qui a informé le Conseil de sécurité sur la situation en Gambie lors d'une session à huis clos, accompagnera M. Barrow de Dakar à Banjul, indique-t-on à New York. En Côte d'Ivoire, appel sans équivoque du gouvernement ivoirien aux fonctionnaires qui sont en grève depuis le 9 janvier. Il leur ordonne de mettre fin à leur mouvement, menaçant de le déclarer illégal et de prendre des mesures appropriées. Jacques Aristide.
La grève est prévue de se terminer demain, vendredi, mais pour le porte-parole du gouvernement, les absences au poste de travail, particulièrement dans les secteurs de l'éducation, seront illégales. Bruno connaît de dire que si le travail n'est pas repris, le gouvernement prendra acte de la rupture des négociations et ramènera toutes les parties au texte de loi. Les pourparlers hier entre les syndicats et un comité de dialogue social de la fonction publique étaient considérés comme ceux de la dernière chance. Les grévistes demandent des augmentations de salaire, le paiement de certaines primes et protestent contre une réforme des retraites intervenue en 2012 dont les premiers effets se font sentir chez les retraités. Les évêques catholiques ivoiriens se sont déclarés hier inquiets face aux remous sociaux dans le pays, dénonçant un climat délétère qui risque de compromettre gravement tous les acquis enregistrés. Les grévistes demandent une rencontre avec le président Alassane Ouattara ou avec son adjoint Daniel Kablan Duncan en vue de débloquer la situation.
En RDC, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur des violences meurtrières liées au mouvement politico-religieux Bundu dia Congo. Les détails avec Eddy Sango.
Le réveil meurtrier de cette secte politico-religieuse basée dans le Congo central, province du sud-ouest de la République démocratique du Congo, inquiète les Nations Unies. Le porte-parole de la MONUSCO, Félix Prosper Bassé, a averti hier que Bundu dia Congo s'est à nouveau signalé après un temps d'éclipse. 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées mardi lors d'une sortie de la secte. Au moins 27 morts pour la plupart de la secte Bundu dia Congo avaient été enregistrées en 2008 dans une opération militaire. Il s'agissait des représailles des forces de l'ordre après une série d'attaques armées contre des agents de l'État. Les membres de cette secte appelaient la population locale à chasser les non-originaires de la province. Groupe d'opposition religieux et sécessionniste très implanté dans la province du Congo central, Bundu dia Congo ou Royaume du Congo, Anki-Congo, prône la restauration de l'ex-royaume Congo qui a connu son apogée au XVIe siècle et dont l'autorité s'étendait sur l'actuel Congo central et sur des territoires aujourd'hui en Angola, au Congo-Brazza et au Gabon.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Somalie, l'élection du président de la République par le Parlement, maintes fois reportée, est finalement fixée au 8 février. Le point avec Arzuma Compaoré.
Selon la commission électorale, le nouveau président de la Somalie doit être choisi par les 275 députés et 72 sénateurs tout nouvellement élus. L'élection du chef de l'État était initialement prévue en août, mais a été repoussée plusieurs fois. Les prétendants ont jusqu'au 29 janvier pour déposer leur candidature. Ils s'exprimeront du 2 au 5 février devant le Parlement, qui sera chargé d'élire le président le 8 février. Quelques 14 000 électeurs délégués sur les 12 millions de Somaliens ont voté entre octobre et décembre 2016 pour élire les députés. Parmi les candidats choisis à l'avance par consensus et représentant chaque clan ou sous-clan du pays. Le suffrage universel a été promis aux Somaliens, mais a été abandonné en 2015 en raison de querelles intestines combinées à l'insécurité chronique due aux nombreuses attaques des islamistes Shebab.
En Libye, l'armée nationale libyenne ANL Loyalo Maréchal Khalifa Haftar a annoncé avoir réprimé mercredi l'un des derniers bastions des djihadistes près de Benghazi dans l'est du pays, où un attentat a fait 6 blessés hier soir. Le porte-parole Mohamed Al-Azoumi a précisé que ceux qui restent des groupes terroristes a fui vers les immeubles 12, un quartier résidentiel d'un kilomètre carré, ancien fief d'Ansar al-Sharia, groupe proche d'Al-Qaïda et classé organisation terroriste par l'ONU et les États-Unis. L'Organisation mondiale de la santé a désigné hier les 3 candidats qui tenteront en mai d'obtenir le poste de directeur général de cette influente agence de l'ONU. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Réunis à Genève, les 34 membres du conseil exécutif de l'OMS ont retenu le docteur David Nabarro du Royaume-Uni, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus d'Éthiopie et le docteur Sania Nishtar du Pakistan. Le Britannique David Nabarro fait figure de favori. Monsieur Nabarro, 67 ans, diplômé de médecine, exerce depuis 1999 des fonctions de responsabilité à l'OMS. L'ex-ministre éthiopien des Affaires étrangères, Tedros Adhanom, 51 ans, est soutenu par l'Union africaine. Chercheur renommé sur le paludisme, cet ancien ministre de la Santé veut devenir le premier Africain à la tête de l'OMS. Seule femme sur la liste, la cardiologue pakistanaise Sania Nishtar, 53 ans. Elle travaille depuis 2014 au sein de l'OMS. Le choix du futur patron de la santé mondiale sera décidé par les 194 pays membres de l'ONU en mai. Il prendra ses fonctions le 1er juillet pour remplacer l'actuelle patronne de l'OMS, le docteur Margaret Chan, qui a enchaîné 2 mandats de 5 ans depuis 2006.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.